chapitre 23. C'est la première chose que voit Becker. Le fusil, dans l'entrée, appuyé contre le banc. Grace suit son regard. « Pas d'inquiétude, » le rassure-t-elle avec un petit sourire en coin. « Il est uniquement décoratif. Je n'ai pas l'intention de vous envoyer chasser votre dîner. » Un rire nerveux de la part de Becker. « Est-ce que c'est le fameux fusil ?» demande-t-il.
« Comment ça ?»«
Celui que Vanessa a emprunté au fermier après sa première interaction avec... vous savez. »
« Oh !»
fait Grace. Et elle hoche la tête tandis que son visage s'empourpre légèrement.
« Vous avez lu ce passage ?»
Oui, c'était terrifiant.
On peut le dire, oui. Et cette pauvre pétoire n'aura servi à rien. Quoique, on aurait pu la semer à coups de crosse,
ajoute-t-elle après réflexion. Elle se retourne, entraîne Becker vers le salon et désigne trois cartons posés sur la table basse.
C'est pour vous,
indique-t-elle,
en espérant que ça satisfera votre patron.
Loin de là, Becker le sait. Mais il a décidé de ne pas aborder les sujets qui fâchent d'entrée de jeu. Il se montre donc enthousiaste et reconnaissant et rejoint son hôtesse à la cuisine. Debout devant le fourneau, face à la fenêtre, il admire la vue sur la côte pendant que Grace remplit la bouilloire. « Qui était cet homme ? » demande-t-il.
« Qui donc ? Oh, on est toujours sur cette histoire de fusil. Il s'appelait Stuart Cummins. C'était un chauffeur routier qui faisait aussi un peu de mécanique. Dans la clinique où je travaillais, j'ai souvent soigné son épouse, Marguerite. Doigts cassés, lèvres fendues, ecchymose, et d'autres choses. Des affaires de femme. »
Le visage fermé, elle lui tend une tasse de thé.
« Elle n'a jamais porté plainte, »
poursuit-elle malgré tout.
« Ils habitaient une des petites maisons sur le port. On la voit d'ici d'ailleurs. Tenez, c'est celle-là, là-bas, sur la gauche. »
« La dernière ?» s'enquiert Becker en se remémorant le visage inquiet qu'il a cru apercevoir derrière le carreau. « Il n'y habite plus ?»«
Marguerite est toujours là. » Mais Stuart est parti il y a bien longtemps, Dieu merci.
C'était donc elle. Marguerite, répète Becker. Et elle était mariée à l'homme qui a agressé Vanessa? Son nom apparaît dans un des carnets. Elle a rendu visite à Vanessa une fois et elle semblait un peu perdue.
Marguerite est malade depuis des années. Elle a Alzheimer maintenant. Mais même avant ça, elle était déjà très fragile. Son mari lui a fait subir un grand nombre de sévices. Le pire de tous, à mes yeux, c'est qu'il ne lui disait jamais quand il rentrerait.
Grace et Becker se tiennent côte à côte devant la fenêtre, le regard dirigé vers les petites maisons.
Il partait travailler et Marguerite ignorait si c'était pour quelques heures ou pour quelques jours, si bien qu'elle n'était jamais tranquille. Elle a passé des années à la fenêtre à guetter son retour.
Soudain, les nuages s'écartent et la pièce se retrouve inondée d'une lumière chaude. Ravie, Grace s'exclame.
« Regardez, regardez !»
Le sable a pris une couleur dorée, tandis que le ciel se pare de jaune et de rose. Il reste silencieux quelques instants, à admirer la magie du vent qui transforme la mer émeraude en un moutonnement blanc. Puis, un nuage passe devant le soleil, et l'illusion se dissipe. Grace va s'asseoir à la table avec son thé et fait signe à Becker de la rejoindre. « Qu'est-il devenu, ce fameux mécanicien » demande-t-il. « Le mari de Marguerite ?»«
Je n'en ai pas la moindre idée. » Il a écopé d'une peine de prison beaucoup plus légère que ce qu'il aurait mérité. Si seulement la justice avait su tout ce qu'il avait fait subir à Marguerite.
Les coudes sur la table, Grace forme un pont avec ses doigts sur lequel elle vient poser son menton.
Après l'agression de Vanessa, je me suis installée sur l'île. J'ai quand même gardé ma maison au village parce que je continuais à travailler à la clinique et que les horaires des marées ne s'accordaient pas toujours à mon emploi du temps. Mais bref, dès que je pouvais être là, j'étais là. Vanessa était bouleversée, terrifiée. Il y a eu toute une période où elle n'osait plus aller se promener seule dans les bois et où elle cachait des armes un peu partout. Des couteaux dans son atelier, un marteau près de la porte d'entrée.
Grace laisse échapper un petit rire étrange avant de secouer la tête. Dans la lumière tamisée, ses yeux marrons ont l'air noirs.
Ça m'a tellement mise en colère. Ça me met toujours en colère d'ailleurs, qu'un endroit se retrouve souillé comme ça. C'est une seconde agression qui se superpose à la première. Et ça arrive tout le temps. On se promène quelque part, on fait son footing, ses longueurs à la piscine, peu importe, quelque chose qu'on aime. Et donc on fait ce qu'on aime dans un cadre qu'on trouve beau et pur. Et soudain, un homme surgit. Pas forcément un homme, mais le plus souvent. Et salit l'endroit. Si bien qu'ensuite, on ne s'y sent plus jamais en sécurité. Le lieu est transformé. Vous êtes transformé, et jamais dans le bon sens du terme.
Becker ne sait plus si c'est à lui qu'elle s'adresse, ou si elle parle seule. Quoi qu'il en soit, elle est amère et contrariée. Et lui se sent bête, un peu mal à l'aise. Il voudrait s'excuser, mais de quoi? D'avoir évoqué un événement traumatisant? De l'attitude des hommes? Tous les hommes, ou seulement quelques-uns? Alors qu'il réfléchit à ce qu'il pourrait dire, la mauvaise humeur de Grace semble s'envoler. Les nuages qui obscurcissent son regard se dissipent et son visage s'illumine.
« Vous voulez voir l'atelier ?»
L'atelier est perché sur un plateau au sommet d'une colline dont les pentes verdoyantes se sont assombries à présent que le soleil est passé derrière le rocher d'Eris. Un sentier assez raide permet d'y accéder. Fébrile, Becker se ronge les ongles pendant que Grace déverrouille le cadenas, puis fait coulisser l'énorme porte métallique qui évoque au conservateur la pierre barrant l'accès au tombeau du Christ. Et soudain, l'atelier est là, sous ses yeux. Un espace caverneux avec des étagères tout le long du mur de droite, un vieux tour de potier sur la gauche et un four à céramique au fond. Becker entre. Il fait plus frais à l'intérieur, plus sec aussi, et il flotte dans l'air une odeur de poussière et de soufre. Par la grande baie vitrée que Vanessa a fait percer côté sud, on voit les pentes herbeuses qui descendent vers la mer et, au loin, l'île de la tête de mouton. Au milieu de la pièce se dresse une table à tréteaux sur laquelle sont empilés plusieurs cartons.
« C'est toutes les choses qu'il faut encore que je trie »,
explique Grace.
« Comme vous pouvez le constater, il en reste pas mal. »
Elle ouvre un des cartons.
« Dans celui-ci, il y a tout un tas de photos. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. »
Évidemment que ça l'intéresse. Ces images fournissent une illustration fascinante des années que Vanessa a passées sur l'île d'Eris. Toute une série de clichés de la maison, des travaux de réfection du toit, de la rénovation de la grange. Et plusieurs dizaines d'autres de l'île elle-même et de sa flore bigarrée. Les fougères couleur rouille, la bruyère mauve, les ajoncs d'un jaune presque fluorescent. Est-ce qu'elle peignait beaucoup à partir de photos? Demande Becker. Il passe en revue les différents clichés. L'océan à toutes les heures du jour et dans toutes les conditions climatiques possibles et imaginables. Des arbres tombés dans la forêt. Des empilements d'algues qui font penser à des corps échoués sur la plage.
« Non, pas souvent »,
répond Grace qui est occupée à ouvrir et fermer des placards tout au fond de l'atelier.
« Pas les premières années, en tout cas. Après, quand elle est tombée malade et qu'il lui est devenu impossible de travailler dehors, elle n'a pas eu le choix. Mais elle aimait bien les avoir à disposition, au cas où. « Pour se rappeler la lumière, disait-elle. Pourtant, à côté de ça, elle passait son temps à se plaindre que ce n'était quand même pas la même chose. »
« Elle avait raison, » dit Becker en ramassant un autre cliché. « Une photo est incapable de rendre justice à la lumière. » Sur l'image qu'il a à la main, deux personnes se tiennent côte à côte, accoudées à une rambarde devant une mer agitée. L'une des personnes est Grace. Beaucoup plus jeune, mais parfaitement reconnaissable avec sa coupe au bol, son visage rond et son menton qui disparaît sous un sourire timide. L'autre a de longs cheveux châtain clair qui tombent sur ses épaules anguleuses et porte un short qui laisse entrevoir de longues jambes maigres. Vanessa, devine Becker, même s'il ne peut être catégorique, le visage étant obscurci. Non, pas obscurci, effacé. Quelqu'un a volontairement gratté le papier.
« Oh, mais elle est à moi, celle-ci !»
s'exclame Grace, qui s'est approchée entre-temps.
« En tout cas, ça ne me rajeunit pas !»
Becker retourne l'image. Grace et Nick, Saint-Malo, 1981. « J'ai cru que c'était Vanessa, avoue-t-il. » Et Grace secoue la tête en lui prenant la photo des mains pour l'examiner.
« Non, c'est Nick. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. »
« C'est Vanessa qui s'est acharnée sur son visage ?» Becker n'est pas vraiment étonné. Dans ses carnets, Vanessa exprime un caractère bien trempé et laisse parfois entrevoir une pointe de méchanceté.
« Il lui arrivait d'avoir des réactions bizarres », explique Grace. « Vanessa était assez possessive, ce que j'ai d'ailleurs toujours trouvé un peu malvenu de la part de quelqu'un qui exigeait pour elle-même une liberté totale. Nick Riley était un ami d'université. On a vécu en colocation pendant un temps. Un été, on est parti faire du camping en France avec une autre fille, Audrey. C'est elle qui a dû prendre la photo. »
La gêne de Grace est palpable.
« Il y a eu une époque où j'étais très proche de Nick »,
ajoute-t-elle.
On n'était pas ensemble, mais c'était quelqu'un à qui je tenais beaucoup. Il était très beau. Et pour ce qui touchait à la beauté, Vanessa n'aimait pas qu'on empiète sur son territoire.
Grace glisse la photo dans la poche de son gilet et va ouvrir un petit placard sous la fenêtre.
Je me rends compte que je la fais passer pour un monstre alors que je ne le pense pas une seule seconde,
ajoute-t-elle.
Vanessa avait son caractère, c'est tout. Ah, la voilà.
Elle sort une boîte en bois du placard et la pose sur la table.
Tenez, venez voir ça.
Il s'agit d'un coffret en palissandre, marqueté de nacre. Grace soulève le couvercle. À l'intérieur sont éparpillés des ossements, ou plutôt des fragments d'ossements, brisés, décolorés, loin d'être aussi parfaits que celui dont elle s'est servie pour Division 2. Becker les trouve minuscules et songe qu'ils doivent provenir d'un petit animal, un rongeur peut-être. Mais après tout, qu'est-ce qu'il y connaît ? Est-ce que je pourrais les récupérer ? Demande-t-il. Je pense que ces os pourraient se révéler très utiles. Et puis, il s'agit de choses dont Vanessa se servait pour son art, non ? Grace hoche la tête.
D'accord.
Elle désigne le placard resté ouvert.
Je sais qu'il y a un autre coffret quelque part avec des galets et des coquillages. Et un autre avec des plumes et... Oh, tenez, regardez.
Elle attrape une boîte beaucoup plus quelconque que la première et l'ouvre pour révéler un minuscule crâne d'oiseau. Avec 1000 précautions, Becker s'en saisit et le fait tourner entre le pouce et l'index. Il examine les orbites vides, le bec délicat.
Un moineau, peut-être ?
Suggère Grace. Becker hausse les épaules. Il n'en a aucune idée, mais cela lui rappelle quelque chose qu'il a lu dans un des carnets. Vanessa a écrit qu'elle avait trouvé un crâne d'oiseau. À moins qu'il ne s'agisse d'un squelette entier, en tout cas c'était dans le carnet où elle évoque l'achèvement de Division. Il me semble que vous n'habitiez plus sur l'île à ce moment-là, c'est bien ça ? Grace ignore la question et se remet à étudier le contenu du coffret en palissandre.
Il ne fait aucun doute que pas un de ces ossements n'est humain,
dit-elle en lui tendant un des fragments les plus imposants.
Voyez comme il est léger. Les os humains sont beaucoup plus denses. À mon avis, celui-ci provient d'un mouton. Mais il me semblait qu'il y en avait des plus gros quelque part.
Elle porte la main à sa bouche et penche la tête en arrière pour réfléchir.
Elle faisait des copies, vous savez. Elle confectionnait des moules en plâtre afin de pouvoir les reproduire à loisir. C'est comme ça qu'elle a réalisé Division 2, d'ailleurs. Elle trouvait des ossements, des fragments, et elle les rafistolait avec de la céramique. Ce qui est étonnant, car on utilise la même technique en médecine depuis quelques années pour réduire des fractures ou fabriquer des prothèses.
À propos de céramique, l'interrompt Becker, sautant sur l'occasion d'aborder enfin le sujet qui l'amène. Je voulais vous parler des œuvres que Vanessa avait réalisées en vue de l'exposition à la galerie de Glasgow. Grace l'examine, méfiante. Sur la dernière page d'un des carnets que vous m'avez confié, il y avait une liste d'œuvres qu'elle devait remettre à Douglas pour cette fameuse exposition. Ça vous rappelle quelque chose ? Cet inventaire référence une trentaine de céramiques, mais nous n'en avons reçu pratiquement aucune. Est-ce que vous savez ce qu'elles sont devenues ? Est-ce que Vanessa les a vendues ? Auquel cas, y aurait-il des reçus quelque part ?
Vous savez que c'est moi qui ai soigné son poignet ?
Demande Grace en refermant le coffret en palissandre.
Je vous l'ai déjà dit, non ? C'était la première fois que je la rencontrais. Elle avait trébuché sur le rebord en béton, là-bas, juste à droite du chemin.
Le couvercle de la fosse sceptique. Elle range la boîte dans son placard.
On s'est rencontrés à cause d'un os cassé,
reprend-elle en se tournant vers Becker, amusé.
Et ensuite, elle a commencé à utiliser des os cassés dans ses œuvres. J'aime à penser qu'il y a un lien.
Elle s'interrompt un instant et son visage se fait plus sérieux.
Est-ce que je peux vous faire confiance, monsieur Becker ?
Bien sûr, acquiesce celui-ci en espérant que Grace va enfin répondre à sa question. Mais elle n'en fait rien. Elle sourit et dit
« Très bien. Dans ce cas, je vous laisse farfouiller à votre guise pendant que je m'occupe de préparer le dîner. Mettons une demi-heure. Refermez le cadenas quand vous aurez terminé. Et faites attention en redescendant, le sentier est accidenté par endroits. »
Becker regarde Grace s'éloigner, puis disparaître dans l'obscurité. Au bout de quelques minutes, il entend la porte de la maison se refermer. Un fin croissant de lune joue à cache-cache avec les nuages. Au loin, le faisceau du phare balaye l'océan. C'est l'étal, la mer est d'huile. Soudain, un cri perçant le fait sursauter. Un goéland argenté qui passe en planant au-dessus de sa tête. Becker retourne dans l'atelier. Enfin, il a Vanessa pour lui tout seul. Il commence par fourrager dans un des cartons posés sur la table. La plupart des innombrables croquis qu'il contient se limitent à quelques lignes grossières représentant l'île ou la forêt. Néanmoins, Becker finit par mettre la main sur quelques ébauches de sujets humains. Une silhouette accroupie, une autre allongée, vue sous différents angles. Des études, peut-être. Une chose est sûre, si tel est le cas, il n'a jamais vu les tableaux finaux. Devant tous ces feuillets, tous ces cartons, Becker a soudain l'impression que faire du tri ne servira à rien, parce qu'il y en aura toujours plus. Grace est une sorte de magicienne qui fait sortir des lettres, des dessins et des ossements de son chapeau. Ou une chatte, peut-être, qui dépose ses trésors aux pieds de Becker. Des trésors qui ne lui appartiennent même pas, d'ailleurs. Et puis, la métaphore ne tient pas. Les chats ne rapportent pas des trésors, mais les cadavres de leur proie. Grace lui cache des choses. La façon dont elle a éludé la question sur les céramiques manquantes en est la preuve. Peut-être même qu'elle lui cache des choses au sens propre. Cette maison n'est pas immense, mais elle doit bien abriter un espace de stockage quelque part. Un grenier, une cave. Grace n'a-t-elle pas évoqué un débarras à un moment? Quoi qu'il en soit, Becker doit lui laisser l'occasion de démentir. Il s'enfonce jusqu'au fond de l'atelier, ouvre le four, et en humant l'odeur de poussière et de cendres qui s'en dégage, il a la chair de poule. Il imagine Vanessa effectuant ce même geste, la gorge nouée au moment de découvrir si son œuvre a survécu à la cuisson. S'il pouvait, Becker braverait volontiers le froid pour passer le reste de la nuit ici, au milieu des affaires de cet artiste qu'il admire tant. Mais ce serait impoli. Et il lui reste du travail à faire, des questions à poser. Il tire la lourde porte coulissante en métal et, la lampe torche entre les dents, referme le cadenas. Au moment où il se retourne pour partir, la lampe clignote une fois, puis deux, et s'éteint définitivement, le laissant dans l'obscurité. Becker dégaine son téléphone et, après quelques tentatives infructueuses, parvient à allumer le flash. Voilà, le faisceau illumine une petite portion d'herbe à ses pieds. Au-delà, c'est le noir complet. Un noir oppressant. Portable à la main, Becker s'engage sur le chemin qui descend vers la maison. Il note au passage qu'il n'y a pas de réseau. La maison est douce et chaleureuse, la cuisine chargée d'odeurs. Poulet rôti, feu de bois. Le visage empourpré par l'effort, les aisselles auréolées de transpiration, Grace ouvre une bouteille de vin. « Vous en prendrez ?» demande-t-elle en lui tendant un verre avant qu'il ait pu répondre. « Asseyez-vous, asseyez-vous !» Elle s'agite autour de lui, marmonne dans sa barbe.
« Où est-ce que j'ai bien pu mettre ces... Elles étaient où déjà ?»
Elle finit par trouver la boîte d'allumettes qu'elle cherchait et allume une bougie. Entre le vin, la lumière tamisée et la bougie qui trône au centre d'une table dressée avec soin, la scène a quelque chose de romantique qui provoque chez Becker une bouffée d'angoisse. Il pense à la logeuse dans la nouvelle de Roald Dahl qui attire de jeunes hommes dans son établissement avant de les empoisonner et de les empailler. Il tâte son portable dans sa poche.
« Il n'y a pas de réseau ici, » dit-il d'une voix plaintive. « Ah non, il n'y a qu'en haut du rocher qu'on capte sur cette île. Mais de nuit, je vous déconseille de vous y rendre. Pourquoi ? Vous avez besoin d'appeler quelqu'un ? Il y a le Wi-Fi, sinon. Vous pouvez utiliser WhatsApp. »
Becker sourit. « WhatsApp, » corrige-t-il.
« Par contre, je ne connais pas le mot de passe.
En général, il est noté sur la box.
« Ah, mais oui, c'est dans la chambre de Vanessa, je vais regarder. »
Grace disparaît pour revenir quelques minutes plus tard, armée d'un morceau de papier. « Merci, » dit Becker en se levant de table, et il indique la direction du salon.
« Je vais juste passer un coup de fil rapide à ma femme. Je vous en prie. »
Elena ne décroche pas. Becker lui envoie donc un message pour lui expliquer qu'il n'y a pas de réseau à Eris et qu'elle peut le contacter par WhatsApp en cas de besoin. Il attend quelques instants, mais voyant que les petites coches sous son message restent désespérément grises, il finit par retourner à la cuisine. Il s'assoit à table et boit une grande gorgée de vin en s'efforçant de ne pas imaginer Sébastien passant à l'improviste au logis pour prendre des nouvelles de Léna.
« Tout va bien ?»
s'enquiert Grace sans se retourner.
« Oui, oui, »
ment Becker avant de finir son verre. À présent qu'il a pensé à Sébastien, il peut presque entendre sa voix.
« S'il faut la secouer un peu, tu n'hésites pas !»
Grace, il faut qu'on parle des œuvres qui figuraient sur la liste que j'ai évoquée tout à l'heure. Grace se penche pour ouvrir le four, sort le plat qui s'y trouve et le lâche sans ménagement sur le plan de travail.
J'ai toujours été là pour Vanessa.
Je sais bien, dit Becker frustré, mais...
Non, vous ne savez pas,
le coupe Grace. Elle se retourne face à lui, retire ses maniques et s'essuie le front du dos de la main. Elle a l'air contrariée.
J'ai toujours été là pour elle, depuis le jour où on s'est rencontrés quand elle s'était cassé le poignet. J'étais la personne sur qui elle pouvait compter. Vanessa avait tendance à se perdre dans son travail au point d'en oublier de manger. Alors je lui apportais ses repas. Je lui faisais la cuisine, je m'occupais des réparations de la maison, et si cela dépassait mes compétences, je faisais venir un artisan. J'étais aux petits soins pour elle, je lui facilitais la vie. Je l'écoutais quand elle parlait, même si je ne comprenais pas la moitié de ce qu'elle racontait. J'étais là quand elle s'est fait agresser, je l'ai protégée. Et j'étais là pour prendre soin d'elle après ce qui s'est passé avec Julian.
Grace attrape une fourchette et un couteau à découper dans un tiroir et les pose devant Becker.
Vous voulez bien vous occuper du poulet ? J'ai quelque chose à vous montrer.
Becker s'attaque maladroitement à la volaille, tout en se préparant à la confrontation à venir. Il sait ce que Grace va lui dire. Pour tout ce qu'elle a fait, elle a bien mérité une récompense. En soi, elle n'a pas tort. Il serait logique qu'elle soit dédommagée pour les innombrables services qu'elle a rendus à son ami. Hélas, Becker sait, tout comme Sébastien et tout comme Grace, qu'il ne s'agit pas d'une question de logique, mais de droit. Or, le testament qu'a laissé Vanessa Chapman est clair. À son retour dans la cuisine, Grace ne peut réprimer une grimace. Becker a massacré le poulet. Elle lui tend un torchon, pose un morceau de papier sur la table devant lui et récupère la fourchette et le couteau pour terminer elle-même la découpe.
« Lisez ça !»
ordonne-t-elle. Becker reconnaît aussitôt l'écriture de Vanessa. Le papier sur lequel est inscrit le message présente plusieurs taches brunâtres. « J, ça ne peut pas continuer comme ça en tournant rond, toi et moi. Je serai de retour ce week-end, il faudra que tu sois parti. Je n'ai plus d'économie, je n'ai plus rien. On s'est aimé, on s'est haï, et maintenant on a le droit d'être libre, de ne plus être enchaînés l'un à l'autre. N'est-ce pas merveilleux ? À présent, tu dois trouver ta voie. Avec tout mon amour, Nessa. »
Ils venaient de passer plusieurs jours ensemble,
explique Grace en lui tendant une assiette.
Les nuits aussi. Ils s'amusaient, ils couchaient ensemble et, évidemment, ils se disputaient car, comme d'habitude, il était venu lui réclamer de l'argent. Moi, j'étais rentré chez moi au village. Je ne voulais pas me mêler de leurs affaires. Et pour être honnête, je n'appréciais pas du tout Julian.
Elle se serre et s'assoit.
Mais bref, il est arrivé le samedi et le jeudi matin, Vanessa est partie en voiture pour Glasgow, où elle devait retrouver Douglas Lennox pour régler les derniers détails concernant son exposition, dont le vernissage devait avoir lieu environ un mois après. Vanessa a emporté quelques tableaux, ceux que vous avez récupérés par la suite. Le reste, toutes les céramiques et les toiles les plus imposantes, devaient être livrées plus tard. La plupart des œuvres étaient déjà dans l'atelier, prêtes à être emballées. Et donc, comme je disais, Vanessa est partie le jeudi matin, très tôt à cause de la marée. Julian dormait encore, alors elle lui a laissé ce message.
Grace porte la fourchette à sa bouche et mâche lentement.
« Ce que je vous raconte doit rester entre nous, Monsieur Becker. C'est bien compris ? Vanessa ne voulait pas que cette histoire soit rendue publique. »«
Je comprends, » s'empresse d'acquiescer Becker. « Mais quelle histoire ? Où est-ce que vous voulez en venir ?»
Vanessa a déposé ce petit mot à côté du lit en partant, et quand elle est rentrée de Glasgow le dimanche, elle l'a retrouvée par terre dans l'atelier, au milieu des débris. Les céramiques pulvérisées, les toiles lacérées, tout était détruit.